Il est 19h sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes le 24 mai 2021 et il est l'heure et le jour que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Comme tous les 15 jours, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, des assassins, du jaune, encore des assassins, des loups, une instite, des ados et d'autres machins. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui parle le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous allons passer un bon moment. Au vu de la situation, j'avais deux possibilités pour ce soir. Soit continuer à passer ma soirée à la terrasse d'un bar, tranquillement, et au vu de la température et de la pluie qui s'annonce, je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal de revenir dans les studios pour vous faire une bonne vieille émission en direct. J'espère que vous allez apprécier et j'espère que ça va bien se passer. Donc vous étonnez pas si je suis un petit peu essoufflé, je n'ai plus l'habitude de l'exercice. En tout cas, je suis ravi de pouvoir me prêter à cet exercice avec vous dès ce soir. On va commencer tout de suite avec un petit peu de lecture jeunesse, avec Fox et Lapin. Fox, c'est un petit renard et Lapin, c'est un petit lapin. Vous allez me dire, haha, bravo Seb, t'es vraiment trop balèze en animalerie. Eh ben oui, mais bon, c'est rigolo. C'est un petit album publié aux éditions Albin Michel Jeunesse avec Bess Ferry et Gergely Dudas. Je suis pas sûr de le prononcer correctement et je m'en excuse. C'est l'histoire de deux amis, un petit lapin qui s'appelle Fox et un petit lapin qui s'appelle Lapin et un petit renard qui s'appelle le Fox et qui vont vivre des aventures telles que vont les vivre deux amis qui se connaissent depuis très très longtemps. Ces deux amis vont passer des activités et des choses à rien faire, avoir les petites querelles que des amis peuvent avoir entre eux. Par exemple, il y en a un qui copie l'autre, par exemple, il y en a un qui veut faire quelque chose et l'autre il veut pas. C'est assez sympathique puisque c'est... C'est une émission... Je raconte que des bêtises, je suis désolé, c'est le stress de reprendre... C'est deux amis qui vont vivre un quotidien tel que pourraient le vivre deux enfants. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que c'est écrit comme si c'était des enfants qui se parlaient. Ils vont se faire des réflexions assez proches de ce que peuvent se faire des enfants. Et c'est assez proche si vous avez des enfants, vous comprenez exactement ce dont je veux parler. Et c'est hyper agréable à lire, c'est très mignon en termes de dessin. Il y a des petits running gags, c'est assez, assez cool. Et des petits running gags, il y a une tortue qui arrive presque ponctuellement à la fin de chaque petite histoire. C'est des histoires courtes hein, d'une quinzaine de pages. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une petite tortue qui arrive et qui dit quelque chose que je vous laisserai découvrir, mais c'est une petite blague rigolote qui revient régulièrement. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment très drôle. C'est un bon moment à passer, à lire avec vos petits. Et du coup, c'est vraiment, vraiment sympa. Graphiquement, on est sur quelque chose de très doux, très propre, un peu travaillé, je sais pas comment le dire, c'est très enfantin en termes de dessin. Il y a plein de décors, il y a plein de choses. Au niveau des couleurs, on est sur des couleurs qui sont plutôt classiques. Et du coup, c'est franchement cool, c'est vraiment agréable, donc faut pas se laisser avoir. On va continuer avec un album de chez BD Kids. Je redonne les références. D'abord, avant, c'est Fox et Lapin de Bess Ferry et Gergely Dudas aux éditions Albin Michel. Le deuxième album, c'est Cendre et Hazel, les sorcières chèvres de Tom Picot et Carensac dans la collection aux éditions BD Kids. C'est une héroïne Manon. Alors, je sais pas ce que c'est une héroïne Manon. Ça doit être un magazine pour les 7-10 ans. Voilà, que j'avais pas fait attention. L'extra magazine des filles super. Donc, je pense que c'est pré-publié dans ce magazine Manon. C'est assez rigolo. L'histoire, c'est l'histoire de Cendre, une jeune sorcière qui pense savoir faire les choses et qui n'est pas vraiment très douée. Elle va un jour lancer un sort, un super super sort, qui s'appelle Capra Cambrius, si je ne me trompe pas. Et elle va transformer sa sœur Hazel en chèvre. Et du coup, elle va commencer à essayer de trouver. Suite à ça, elle va fuir un petit peu son village où elle a, j'imagine, je vous laisse deviner, mais elle n'a pas transformé que sa sœur en chèvre. Et elle va essayer de trouver un remède pour que sa sœur puisse redevenir un être vivant, un personnage. J'allais dire de chair de sang, mais parce que les chèvres ont quand même des chairs de sang, mais un personnage vivant qui pourra lui plaire. Donc elle va se déplacer de village en village, cherchant une solution à la fois dans la forêt, auprès des esprits de la forêt, auprès d'un très grand magicien, auprès d'un dragon qui est censé pouvoir répondre, exaucer les souhaits. Et ça se passe jamais comme prévu. Alors soit parce que Hazel fait pas exactement ce qu'on lui demande, soit parce que il y a des petites choses qui sont pas cool. Et c'est vraiment sympa, c'est plutôt rigolo, c'est très rond en termes de dessin. Il y a un côté, c'est pas caricatural, c'est pas cartoon, je sais pas comment le dire, mais les personnages ils ont des bonnes têtes. Le chapeau d'Hazel, c'est pas le chapeau de sorcière traditionnel. Le chapeau de Cendre, pardon, c'est pas le chapeau de sorcière traditionnel, il a un petit peu de guingois, un petit peu. La jeune fille est aussi un petit peu échevelée, donc c'est quelque chose de très fun, très rigolo, très léger. Il y a un petit gag en flash forward. Il y a un personnage qui nous annonce un gag dont on n'a pas la réponse dans cet album, ce qui donne d'autant plus envie en fait de découvrir la suite et les autres albums qui vont pouvoir en suivre. Du coup, j'ai vraiment envie de lire la suite. Et si vous avez envie de faire des petits travaux avec vos enfants, vous avez une figurine de Hazel à découper dans votre album et à coller. Alors, un petit dédicace à Tony, qui sait à quel point j'adore quand les gens proposent de découper des choses dans les bouquins. Donc le faites pas, photocopiez votre bouquin, faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est une belle histoire chez Billy Kids. Je redonne les références. C'est Cendre et Hazel, les sorcières chèvres. C'est de tome 1, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Et c'est de Tom Picot et Carensac. C'est aux éditions BD Kids. On va continuer aux éditions Delcourt avec un album qui s'appelle La Maison qui rêvait de Max Braslavski. Encore une fois, je pense que le nom, je le prononce très mal et je m'en excuse auprès de son auteur. Ou alors j'invite les éditeurs à ne prendre que des auteurs avec des noms prononçables facilement. Ouais, je pense que ma solution est pas bonne. Continuez juste à prendre de bons auteurs, ce sera déjà pas mal. Comment parler de cette BD qui, au départ, m'a fait dire que c'était plus un album d'illustration qu'une BD, puisqu'en fait, il y a très peu de bulles, il y a très peu de clés qui sont des clés de bande dessinée à la base. L'histoire, c'est celle d'une maison, une maison perdue dans un quartier, et une maison qui fait un petit peu tache au milieu des immeubles et des autres maisons du coin. Elle est trop grande pour être un pavillon, trop petite pour être un immeuble. Et comme dit l'album, une chose est sûre, il y a des gens qui y habitent. aussi bien qu'on a fini quand même par l'appeler maison. Et il faut reconnaître que la maison, elle est complètement de guingois. Il y a des façades qui sont un petit peu en biais, des décorations qui sont popées au milieu de nulle part, des fenêtres qui ouvrent sur rien, des escaliers avec des rambardes qui font tout le tour de la maison, des portes au plafond. La maison est complètement biscornue. Et nous avons deux vieilles dames dedans qui ne dorment pas bien et qui ont beaucoup de mal en fait à comprendre ce qu'est cette maison. Alors elles y vivent bien visiblement, mais c'est surtout qu'elles dorment mal. Et le matin, elles échangent. Et c'est là le seul moment en fait où on va voir les phylactères, c'est lors des échanges entre ces deux dames. Alors un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid, un coup les volets claquaient, un coup quelque chose. Alors elles savent pas ce qui se passe. Et nous, on va finir par comprendre ce qui se passe. Cette maison n'est pas hantée, cette maison est simplement habitée. Et je vous laisserai découvrir pourquoi elle est habitée, parce que c'est pas forcément intéressant pour moi de vous raconter ce qui se passe dans cette maison. Mais sachez que c'est une histoire assez rocambolesque, où le côté artistique de quelqu'un, et surtout l'âme vagabonde d'une personne, a pu insuffler une espèce de magie dans cette maison. Graphiquement, je disais qu'on avait l'impression que c'était plus un album d'illustration. Alors il y a beaucoup de grandes pages où on voit la maison à certains endroits, la maison implantée différemment. Il y a beaucoup d'architecture, on sent que c'est quelque chose qui passionnait quand même pas mal en fait l'élément. Le réalisateur, enfin le scénariste et le dessinateur dont je vais te donner le nom tout à l'heure. Et que ces éléments-là, ça lui a permis toutes les fantaisies possibles. Donc on a deux grandes pages, on a souvent très peu de cases, 5-6 cases par page, grand maximum. Et on a ces belles décorations, ces belles maisons et ces beaux décors. Et du coup, l'histoire est assez rigolote. Encore une histoire qui peut être lue assez facilement avec vos enfants pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, donc un bel album, petit rebondissement, une invitation au voyage, même pour les gens qui, comme nous, avons été un petit peu enfermés dans nos maisons pendant trop longtemps, ces dernières semaines, mois, on va dire années aussi, on y est pas mal. Donc voilà, une invitation au dépaysement et au paysage de Max Braslavski, ça s'appelait La maison qui rêvait, et c'était aux éditions, enfin c'est toujours aux éditions Delcourt. Je vous invite un petit peu au voyage également avec une petite pause musicale. On va se faire une pause musicale avec un Saltiato Mortis et ou Cindy Clowns, c'est en allemand, je ne sais pas prononcer et parler correctement allemand, donc je m'en excuse et je vous laisse les écouter. On se retrouve dans quelques instants.
die Clowns? Wo sind die Narren? Wer hat auf Wachen abgestellt? Wo ist der Spaß? Wo bleibt der Leichtsinn? Wo sind die Clowns in dieser Welt? In dieser Welt. Wo sind die Clowns in dieser Welt? Wo sind die Clowns?
De retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter Saltiato Mortis avec ou Cindy Clowns, comme ils le disent si bien et beaucoup mieux que moi. C'est toujours la case de Seb et on va parler un petit peu de manga et un petit peu de meurtrier avec une petite sélection. Vous allez voir qui n'est pas piqué des hannetons et qui va. Il y a une thématique qui est ressortie toute seule, hein, donc bon, voilà. Alors, le premier, c'est un manga aux éditions Soleil Manga. C'est une basé sur une œuvre originale de Kisetsu Morita, dessinée par Yusuke Shiba, et un character design de Benio. Ça s'appelle La sorcière invincible, tueuse de slim depuis 300 ans. Alors, vous allez me dire, de quoi ça parle? Alors, certainement d'une sorcière invincible tueuse de slim depuis 300 ans. Ouais, alors, effectivement, on vous la fait pas. Le titre est plutôt explicite vu la longueur. Il s'agit surtout d'une jeune femme. C'est un isekai, donc c'est une jeune femme de notre monde qui était une working girl effrénée, qui travaillait beaucoup et qui, un jour, est décédée d'un accident tout bête. Et là, apparaît devant elle une espèce de... on va dire d'ange qui lui dit écoute, on va te réincarner dans un monde, est-ce que t'as envie de faire quelque chose? Elle dit moi j'aimerais bien être immortel, déjà ça me semble plutôt pas mal, et puis j'aimerais bien surtout pas faire grand chose parce que j'aimerais bien profiter un peu de la vie que j'ai pas pu vivre correctement avant. Et bingo, c'est exaucé et la jeune femme se retrouve dans la peau d'une sorcière. Pardon, mon micro qui vient de me tomber sur la tête. Elle se retrouve dans la peau d'une sorcière dans un petit manoir perdu au milieu de rien. Mais quand je dis absolument rien, c'est qu'il y a des champs autour et un tout petit village plus loin. Et elle est tout à fait peinard. Donc la jeune femme ayant quelques réflexes quand même de jeu de rôle, elle va regarder ce qui se passe autour. Et du coup, elle va se rendre compte qu'il y a des slimes. Alors, slime, c'est une créature, pour ceux qui ne connaissent pas, espèce de blob gélatineux. Les Anglais ont exterminé tous les slimes en mangeant du jelly. Le slime, c'est une sorte de jelly qui est une créature de base dans beaucoup de jeux d'heroic fantasy japonais. La particularité de ce slime, c'est que c'est absolument nul, ça fait pas très très mal, sauf s'il y en a beaucoup, et que ça se tue assez facilement. Et la jeune femme va se rendre compte qu'en le tuant un slime, elle récupère quelques petites piécettes, et puis elle récupère aussi quelques objets qu'elle va pouvoir revendre et utiliser. Mais voilà, elle va s'inscrire à une guilde pour pouvoir revendre ses objets, et elle va constater que qu'elle va gagner un petit peu d'expérience à chaque fois, que son niveau est assez basique. Et 300 ans passent, elle est tout à fait tranquille dans sa petite demeure, avec son petit quotidien. Elle s'est astreint à tuer une vingtaine de slimes par jour pour pouvoir avoir de quoi se nourrir et de quoi acheter quelques menus broutilles. Et tout va bien. Et puis un jour qu'elle va commercer dans la guilde, la vendeuse lui dit écoutez, mais ça fait quand même longtemps que vous êtes là, on n'a jamais vérifié en fait votre niveau depuis, vous avez sans doute progressé pas mal. Après j'ai rien fait donc voilà. Et faut savoir que la jeune femme, elle a fini par arriver niveau maximum, elle a toutes ses stats complètement boostées à fond, elle est super puissante. Sauf que elle a pas du tout envie que ça se sache, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a juste une envie, c'est de rester absolument pépouze, tranquille, dans son petit château, sans qu'on l'embête. Et malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Le bouche à oreille va faire que non seulement des chevaliers vont peut-être venir la défier, mais également un grand dragon qui a dit si c'est toi le plus fort, c'est moi le plus fort, donc voilà. Je vous raconte pas toute l'histoire, ça c'est dans le tome 1. C'est plutôt rigolo, c'est très mignon. Ça nous représente un petit peu un personnage un peu feignant, comme on avait pu voir, qui est l'antithèse, on va dire, du héros qu'on avait pu avoir dans... c'est pas The Shield Hero, c'est un autre manga où le mec se prépare à mort tout le temps. Là, elle a juste envie d'être vraiment tranquille et c'est un ode à ne rien faire et la vie vient quand même nous embêter, donc c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, c'est pas prise de tête, donc c'est un bon manga, c'est bien rigolo. Graphiquement, c'est tout sobre, tout sympa, les chara-designs sont plutôt classiques, mais on se laisse emporter assez facilement par l'histoire et puis par les petites péripéties de ce personnage qui n'a qu'une envie, c'est d'absolument rien faire. Donc prenez-le pour chiller tranquillement dans votre canapé ou à l'extérieur quand le temps le permettra, vous mettez dans votre transat ou dans votre hamac pour pouvoir tranquillement chiller et vous allez voir que ça fera un bien fou. Donc voilà, je vous redonne les références. Il s'agit de La Sorcière Invincible, tueuse de Slim depuis 300 ans. C'est publié aux éditions Soleil Manga. Faut savoir qu'il existe une série animée dont on peut trouver actuellement les épisodes sur YouTube. Je suis pas persuadé que ce soit hyper légal, mais voilà, si vous pouvez trouver la série, c'est plutôt rigolo. Ça va assez vite puisque le premier épisode couvre presque l'intégralité du tome 1. Donc voilà, on va voir comment ça se développe au fur et à mesure. C'est une œuvre originale de Kisetsu Morita sur un dessin de Yusuke Shiba et au car design nous avons Benio. Donc là on n'était pas sur un vrai assassin, hein, vous êtes bien d'accord avec moi. Il y avait certainement moyen de faire quelque chose d'un peu plus violent avec ce personnage. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec The Fable de Katsuhisa Minami aux éditions Pika. The Fable, comment dire, c'est un tueur à gages qui fait passer Léon ou l'agent 47 pour des quinquins. Soyons francs, le mec est balèze et il est capable de tuer n'importe qui en moins de 6 secondes tel qu'il a été formé. Mais voilà, son boss lui explique que depuis un an, il a fait quand même beaucoup beaucoup de contrats et que ça commence à faire beaucoup, sa cote pourrait baisser, ce serait bien qu'il se mette au vert un petit peu. Le boss décide de l'envoyer dans une famille de Yakuza, dans une ville gérée par une famille de Yakuza, pour qu'il puisse prendre un petit peu de bon temps et surtout ne rien faire qui puisse attirer l'attention sur lui. Donc dans cette famille de Yakuza, en fait, il n'y a que le chef qui sait qui il est et son bras droit. Donc le but, c'est va être vraiment qu'il ne fasse absolument rien. Sauf que ce personnage, ce fable, ce tueur professionnel craint par toute la pègre japonaise, il est un petit peu inadapté socialement. Dès qu'il a un truc à dire, il le dit. Et si ça plaît pas, trop tard, c'est déjà sorti. Donc ça va entraîner des quiproquos, je vous cache pas que la situation aurait juste absolument rien faire, ça va être compliqué pour lui. C'est un petit peu en fait la même chose qu'avec la sorcière invincible. Hein. Graphiquement, on est sur un truc qui est quand même beaucoup plus sombre, ça parle de meurtre, le dessin il est quand même assez efficace, avec une espèce de façon... ça fait très sombre, je sais pas comment, il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de choses, le trait est assez précis en termes de visage, c'est vraiment agréable. Le plus dur, je pense, ça va être quand même de s'accrocher à voir personnellement, le personnage principal, au début, j'avais envie de lui mettre des baffes. Il m'intéressait pas du tout, le type, il est lambda au possible, il est pas intéressant. Donc c'était dur en fait de s'accrocher. Et une fois que vous êtes rentré dedans, vous vous rendez compte que le mec, il est quand même hyper puissant, hyper intelligent, et que c'est complètement autre chose que la façade qu'il a, et une façade qui est certainement beaucoup plus efficace qu'elle n'y paraît, ou que les mecs qui veulent absolument avoir l'air de tueur stylé. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très cool, ça s'appelle The Fable, c'est de Katsuhisa Minami, et c'est aux éditions Pika. On va continuer encore sur du manga, avec Pour le pire, de Taro Nogizaka, aux éditions Glénat. Alors je vous avoue que celui-ci au départ je me suis dit, bof, La couverture me tentait pas vraiment. On a deux individus qui sont en costume de mariée, on a des petites fleurs un peu partout, ça a l'air d'être de deux poseurs. Et puis, quand on les regarde un peu plus près, la mariée elle a une espèce de regard un peu énigmatique. Les personnages sont presque dos à dos avec un tranchant au milieu, comme si c'était deux images différentes, alors que la composition est bien la même. Et il y a quelques petites taches de sang un petit peu partout, qui ne sont pas juste des pétales de rose. Et on va découvrir l'histoire d'un jeune homme qui est un employé d'assistance sociale, un employé au service d'aide sociale à l'enfance, et qui est plutôt l'enjôleur, le beau gosse qui va séduire les femmes à tire-larigot et puis les laisser tomber parce que c'est pas vraiment son grand kiff en fait de vivre le grand amour. Et puis pour aider un jeune garçon dont le papa a été victime d'une tueuse en série, il va décider de rencontrer cette tueuse en série afin d'essayer de lui faire dire où se cache la tête du papa qui n'a jamais été retrouvée. Et c'est là où le manga va commencer à devenir hyper intéressant. C'est qu'il y a une espèce de jeu de chat et la souris qui va se faire entre cet enquêteur et cette tueuse. Et une espèce de jeu de séduction. Elle est visiblement très intelligente. Lui n'est pas trop bête non plus. Mais elle a toujours un ou deux temps d'avance sur lui. Et voilà, ça va être ça le quiproquo. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont eu la chance de voir Le silence des agneaux, et ben là on a le côté enjôleur en fait d'Hannibal Lecter, qui est le côté qui est avec le monsieur de l'assistant sexuel, enfin l'assistant social pardon, oui mais c'est normal hein, le lapsus hein, vous verrez. Et on a cette jeune femme qui elle aussi va essayer de jouer à tous ses talents de séduction et son côté intelligent, et c'est hyper intéressant. Il y a des rebondissements qu'on voit venir et en fait ils arrivent quand même à nous surprendre. C'est hyper efficace, c'est vraiment très 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 intéressant. Le dessin, il est plutôt agréable, il est plutôt fouillé, puis il y a toujours un côté un peu malaisant. Surtout quand on nous représente la sérielle killeuse qui déjà quand elle sourit, c'est un petit peu dérangeant, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et puis elle a une espèce de regard qui passe à la fois du regard de petite poupée au regard de prédateur en quelques instants, et le graphisme fait que c'est vraiment efficace, qu'on se sent vraiment malaisé là-dedans, et c'est vraiment agréable. Donc une bonne petite surprise que je n'attendais pas, et je me suis laissé captiver, et effectivement, jusqu'à la fin, il y a des petits rebondissements, il y a des choses qui font qu'on va douter ou pas de la culpabilité de cette sérielle killeuse, et qu'on va peut-être essayer de comprendre comment on va pouvoir arriver à les faire baisser ses gardes pour lui faire avouer où se situe la tête du papa du petit garçon. Je vous laisserai le redécouvrir. Ça s'appelle Pour le pire, c'est de Taro Nogizaka, c'est aux éditions Glénat. Et si vous voulez savoir où la partie pour le meilleur et pour le pire, eh ben, faut le lire pour comprendre. On va se refaire une petite pause musicale. Là, je vous ai mis deux morceaux à suivre. Deux morceaux sur la thématique un petit peu du meurtre, avec Tardigrade Inferno, We Are Number One, qui est une reprise de Lazy Town, une espèce de musique même que vous avez certainement entendue. Et puis, on enchaînera sur Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, et on se retrouve tout de suite après. Yeah.
try something else. Now West LA, here's the deal. It's the best line of this banana peel.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, pardon, je vous mets les tirets quand je le dis. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'était deux morceaux un petit peu bizarres. Sophie Lesbextor, Petit Plaisir Coupable, et puis Tardigrade Inferno, un groupe russe assez récent qui fait des choses plutôt assez rigolotes. Donc n'hésitez pas à aller les voir ou au minimum à les écouter. On continue dans ma thématique meurtrier avec un album qui m'a un petit peu perturbé, un album qui graphiquement est une petite pépite que je vous conseille très très fortement. L'album s'appelle Decorum, c'est aux éditions Urban, c'est le premier tome sur deux, et c'est un ouvrage, comment dire, je l'ai commencé à lire un soir, je vous raconte un peu ma life, hein, une fois n'est pas coutume, un soir où j'étais un petit peu fatigué, et le prologue, l'introduction, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on commence sur un graphisme au crayon, on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus précis, et puis hop, un autre type de graphisme, je me suis dit, mince, on m'a fait découvrir une version collector avec un making-of, et en fait, non, c'est comme ça du tout dans le bouquin. C'est un univers qui est assez dense, un univers avec beaucoup de choses, et pour mieux aider à s'immerger, les auteurs, le dessinateur, a trouvé hyper intéressant de faire coller le graphisme au niveau technologique du personnage principal qui est au centre de la case. Ainsi, un personnage qui va être un petit peu primaire va avoir un côté un peu plus crayonné. Des personnages qui vont être hyper technologiques vont avoir droit à quelque chose avec une 3D très poussée. Il y a des intelligences artificielles, on va avoir des choses qui sont très brutes. Et c'est hyper varié, c'est hyper intéressant, c'est graphiquement, c'est une dinguerie, pour reprendre un terme que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps. Et visuellement, c'est un truc assez fabuleux. Donc je vous laisserai vous basez sur mes superlatifs pour vraiment découvrir un petit peu cet univers, c'est vraiment hyper top. Au niveau de l'histoire, on suit un personnage qui est coursier. Elle va livrer des colis et on lui confie un colis un peu plus important qu'un autre, un livret qui doit être fait selon un protocole particulier et être livré à une heure très très précise. On la suit un petit peu négocier avec son employeur pour avoir une petite augmentation, parce qu'effectivement c'est un paquet un peu particulier, et puis on la laisse là partir faire son enquête. Et puis le plan change et on va suivre une femme qui est en train de négocier avec ce qui semble être un gros mafieux qui n'a peur de personne, et puisque c'est une pauvre femme toute seule au milieu, même si visuellement elle en impose, hein, je vous laisserai la découvrir. C'est voilà, côté charisme il y a quelque chose quand même d'assez dingue. Et elle ne semble pas avoir peur. Et la coursière arrive. Et là, on lui livre son colis. Et ben, en fait, elle vient juste de se faire livrer l'arme qui va lui permettre de faire l'assassinat qui va inaugurer l'histoire. Un truc de dingue. Moi, j'ai joué beaucoup à Cyberpunk, Shadowrun, des choses comme ça. Hein. C'est des univers assez dingues. C'est la première fois que je vois quelqu'un se faire livrer l'arme pour faire l'exécution dont elle a été payée. Et cette dame va décider d'embaucher la coursière pour la faire entrer dans sa guilde d'assassins. Là, je vous ai dévoilé quand même une bonne moitié de l'album. Je suis désolé, mais c'est compliqué de parler de cet album sans en révéler un petit peu l'histoire, parce que c'est vraiment touffu, c'est vraiment dense. C'est un univers où il se passe beaucoup de choses. C'est un univers où, en fait, pour qu'on puisse les comprendre, on a des pages de conception, des pages d'explication sur ce qui se passe. Et du coup, c'est ça qui est hyper agréable, c'est qu'on est vraiment immergé, immersif. Dans l'univers, que ce soit l'organisation des colonies, que ce soit l'organisation des différents groupes, c'est vraiment très particulier. Et il se passe quelque chose en marge de cette histoire qu'on ne devine pas vraiment, qu'on ne comprend pas vraiment, et qui va sans doute avoir une incidence assez assez importante, ou une liaison avec les événements qu'on suit avec cet assassin. C'est une petite pépite que je vous invite vraiment à lire. C'est de Jonathan Hickman, et Mike Huddleston, ça s'appelle Decorum. C'est aux éditions Urban, c'est un peu foufou, mais c'est vraiment un bon moment. Je pense que je vais regretter que ça ne se termine qu'en 2 tomes. J'envoie un petit message aux auteurs. J'ai pas encore lu le tome 2, je sais pas s'il est disponible, je pense pas. Mais faites-en plus, c'est vraiment dingue et c'est vraiment hyper agréable de lire un truc comme ça. Donc n'hésitez pas, ça fera au moins un heureux. Je suis désolé, hein, je soupire, vous m'entendez certainement respirer à la radio, mais le port du masque dans la radio, c'est, même si je suis tout seul, c'est un petit peu pénible. Enfin, peut-être que je l'enlève, je sais pas, j'ose pas, j'ai un petit peu peur. Enfin bref, parlons d'un autre album. Ça y est, on a fini avec les Assassins, on va parler d'une instite. Alors, vous allez me dire, ouais, des fois, les instites, Assassins, non. On va pas aller jusque là. On va parler d'instit et on va parler de local avec ma vie d'instit d'Amy Bill. Donc j'ai enfin pu lire l'ouvrage dont vous avez pu entendre une interview de l'autrice il y a de ça quelques semaines. C'est publié aux éditions City. C'est le tome 2 qui suit en fait le tome 1 qui a au moins 2 ans. Et on suit le quotidien d'une institutrice angevine, de son parcours, de son évolution et des pépites de ses élèves. Donc c'est quelque chose qui est... l'album est un peu plus complexe que le premier, puisque le premier quart, en fait, va carrément... le premier quart, tiers presque, va être consacré, en fait, à son parcours, comment elle est devenue instite, comment elle a acquis ses multi-aptitudes et comment elle a été mise face à cette situation du Covid qui a certainement impacté beaucoup, beaucoup de personnes de manière différente, mais les instituteurs ont certainement eu beaucoup de complexité. Et là, on a un petit témoignage qui est vraiment agréable pour comprendre comment ça a pu se passer et comment ça a pu... Ça a pu impacter, on va dire, non seulement la vie de nos chères têtes blondes, ça on l'a vu, mais aussi les personnes qui étaient chargées de leur dispenser du savoir. Et c'est vraiment sympa. Hein. Donc on retrouve le graphisme qui avait fait le succès du premier tome. On voit qu'il y a une nette évolution hein, de ce graphisme dans sa précision, sans pour autant perdre l'espèce de naïveté qu'on pouvait avoir dans le premier. Quelque chose de très frais, qui se prend pas la tête, qui est vraiment assez agréable. Et puis à la fin, presque la moitié, on se retrouve avec les pépites d'élèves, les petites choses qui font que ça doit pas être évident tous les jours, non seulement d'être instituteur ou institutrice des élèves, mais surtout qui met ce moment en fait où vous savez quand votre enfant fait une bêtise et que vous êtes vraiment en train de vous dire est-ce que là je le rouspète ou est-ce qu'au contraire je me marre comme une baleine parce que c'était vraiment trop drôle ce qu'il vient de faire. Et ce jeu d'équilibriste on le retrouve tout à fait dans cet album et c'est vraiment hyper agréable. Je prends l'exemple, alors vous, les enfants vous le répétez pas hein, mais c'est cet enfant qui fait maîtresse je peux aller chier. Et là, la maîtresse, il fait « Pardon ? Ah, je peux aller chier, s'il vous plaît ?» C'est mieux, là ? Oui, forcément, avec « s'il vous plaît ». Il n'a pas compris où était le problème, parce qu'il a sans doute entendu des gens faire pareil. Voilà, donc, quand on le reprend, il ne comprend pas forcément pourquoi. Donc, c'est plutôt drôle. C'est les choses que je vis au quotidien. Et c'est plutôt fun. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a une tournée de dédicaces qui commence à se mettre en branle. Donc c'est quelqu'un de très gentil. Donc n'hésitez pas, elle vous mordra pas, elle vous mettra pas de coups de règle sur les doigts. Enfin, moi j'en ai pas eu encore. C'est peut-être que j'étais trop sage. Donc n'hésitez pas. Ma vie d'instit, tome 2 d'Amy Bill, c'est chez City Edition et je crois que le tome 1 est reparti encore en réimpression. Donc c'est plutôt un petit succès, ce qui est plutôt bon signe. On va partir sur quelque chose de complètement différent. On va partir sur une adaptation d'un film que vous avez sans doute vu. un film que moi j'ai regardé, que je ne connaissais pas, dont le graphisme m'avait pas mal attiré. Il s'agit du Peuple Loup, Wolfwalkers, d'après le film de Thomas Moore et Ross Stewart. C'est publié aux éditions Nobby Nobby et ça a été adapté par Sam Satin. Ou Satin, je ne sais pas comment le prononcer. Donc on est très très fidèle. C'est comme c'est une adaptation d'un film, on est très fidèle des. C'est comme les livres il y avait des mangas en fait qui faisaient ça pas mal, qui reprenaient les images de l'animé et qui remettaient le texte en version bulle. Et là, on reprend ce principe, ce qui fait qu'on va retrouver en fait tous les éléments du film, alors qu'ils sont complétés. On n'a pas que les éléments du film, ou alors je me suis endormi à un moment, qui vont nous être découlés et qui vont nous être présentés pour lire cette histoire assez jolie. On se trouve en Irlande, à une époque où l'Angleterre commence à vouloir prendre un petit peu toute sa place, et dans une ville où il y a un personnage qui s'appelle le Protecteur qui va diriger la ville. On suit l'histoire d'une jeune fille qui dont le père est un chasseur de loups, puisque les loups terrifient les paysans autour. Et cette jeune fille va se rendre compte que les loups ne sont pas juste des loups. Il y a ce qu'ils appellent les Wolfwalkers, qui sont une sorte de personnage capable de s'en transformer en loup à la nuit tombée. Alors, pas des loups-garous, hein, je vous ai vu venir. Et découvrir un petit peu, elle va découvrir que c'est pas juste des gens qui vont essayer de terroriser les villageois, et que la terreur, elle est peut-être de l'autre côté. Et c'est vachement bien, visuellement c'est très très beau, c'est vraiment un bon moment à lire. Donc regardez-le, lisez-le. Ma fille, je vous le dis, hein, elle l'a vu, elle a adoré, elle l'a lu, elle l'a relu, parce que c'est plus facile de prendre le bouquin que de regarder la télé. Donc c'est vraiment très très bien, c'est beau, c'est bien fichu, musicalement c'est très très agréable, visuellement c'est un super travail, c'est très anguleux, très coloré, c'est une pure pépite. Donc n'hésitez pas, regardez le film Le Peuple Loup, lisez l'adaptation de Sam Satin aux éditions Nobby Nobby, c'est vraiment très très bien. Donc je ne vois pas quoi dire de plus. Je vais refaire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après Running with the Wolves de Aurora, qui fait partie de la bande-son du film. À tout de suite.
Yeah.
De retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. On entame la dernière partie de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble, un petit peu moins si on inclut les génériques. Et je pense que j'aurai pas la possibilité de vous parler de tout ce que j'avais prévu de vous parler. Encore une fois, c'est que je parle certainement beaucoup trop. Mais ça, c'est pas ma femme qui va me dire le contraire. J'aimerais bien vous parler d'un manga que je... Enfin, d'un manga... d'une bande dessinée que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'éditeur. Il s'agit de Robinson. L'histoire, c'est celle... l'album s'appelle Le Ravageur. C'est de Corbeyron et Beg, avec des couleurs de Christian Leroll. On est sur une bande dessinée historique et aventure. Et qui est assez assez agréable à lire. Le dessin, on est quand même sur quelque chose de plutôt classique. Hein. Si vous êtes habitué à de la BD franco-belge, ça va pas vous dépayser. C'est quelque chose de très agréable quand même à lire. Il y a pas mal de décors, mais on est sur des couleurs qui sont pas des couleurs pop à fond. Donc vous attendez pas un truc qui va vous exploser les mirettes. On est vraiment sur quelque chose qui est plutôt comme on s'y attend, en fait, pour les albums, pour des décors scandinaves, des couleurs un peu froides. On a vraiment l'impression que voilà, on est au pays des Vikings. L'histoire, c'est celle d'un guerrier qui est assez violent et qui, suite au décès de son père, en fait, va préférer partir de son clan plutôt que de se laisser soumettre à son frère qui lui hérite du clan. Donc il s'en va il est accompagné d'une jeune femme qui n'est autre qu'une des femmes de son frère, et il décide de s'en aller le plus loin possible pour ne pas subir son courroux, puisque bon, bah, piquer la femme de quelqu'un, c'est jamais quelque chose de très sympa, hein, ni à faire ni à subir. Enfin, ça dépend de vos opinions à vous, ça je ne vais pas porter de jugement. Et il va partir en voyage et il va suivre une espèce de quête initiatique qui va l'emmener assez loin, dans des contrées assez étrangères. Et c'est assez sympa. Je pense que historiquement c'est bien documenté. Alors je ne me permettrai pas de juger parce que je suis une bille en histoire, mais c'est agréable de voir quelque chose d'assez. C'est une petite quête épique qui normalement va se conclure sur le tome 2. Alors je sais que c'est la deuxième fois que je le dis, mais faites des séries un tout petit peu plus longues. Là, j'ai l'impression que il manque quelque chose. Ça va beaucoup trop vite. On aimerait bien qu'ils prennent un peu plus de temps, en fait, notre Viking, à vivre certaines aventures. Donc c'est dommage, une série courte. C'est une série qui semblait un petit peu prometteuse, parce que effectivement, moi, j'aurais bien aimé avoir ces aventures dans des contrées un peu plus lointaines. Au moins avoir un peu plus de temps, un peu plus de vécu là-dessus. Donc une histoire d'amour, une histoire violente, une histoire de viking qui passe franchement bien et que vous pourrez découvrir aux éditions Robinson avec Le Ravageur. Le tome 1, c'est La Hache et le Rêve. Et c'est de Corbeyron et Beg avec des couleurs de Leroll. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, des couleurs de Christian Leroll. Hop, désolé, c'est la chaise qui grince. Et on va finir avec un album, je pense que j'en reparlerai une deuxième fois parce que je vais pas avoir assez de temps. On va quand même essayer. Il s'agit de Love Kills de Danilo Berus. C'est aux éditions Soleil. C'est un ouvrage qui est un petit peu perturbant au départ, puisqu'on a la tranche est zébrée comme si c'était le pelage d'un zèbre. Tout est en noir et blanc et on a une jeune femme en robe zébrée sur la couverture avec marqué Love Kills en larmes, en lettres dégoulinantes, et le sol, comme s'il y avait de la pluie, reprend la couleur jaune. Bon, vous me dites, ouais, c'est pas grand-chose. Sauf que la dame, eh ben, elle a un petit peu une main avec des griffes, hein, chose qui n'est pas vraiment toujours de bon signe d'avoir des mains hyper griffues. Et l'histoire, c'est une histoire de vampire, une histoire qui est extrêmement bien fichue. Avec donc c'est un ouvrage qui est assez imposant. Je sais pas combien il y a de pages. J'ai pas fait attention. Il y a plus presque 250 pages. Un ouvrage en noir et blanc, c'est très ciselé. C'est pour moi, c'est du comics. Hein. Après, l'auteur est brésilien, donc je sais pas si y a un nom exact pour la BD, mais très franchement, on est entre le franco-belge et le comics. Et on va suivre l'histoire d'une vampire qui semble très très vieille, qui va faire la connaissance d'un humain qu'elle ne va pas manger et qui va découvrir avec ses yeux des conflits et un monde qui est en guerre. Ou au moins des gens qui en veulent à cette belle et séduisante femme. Donc c'est une relecture du mythe de vampire qui est plutôt agréable, qui est vraiment très, qui est bien faite. Ça se lit assez vite, c'est bien fluide. Il y a beaucoup de passages où il y a très peu de texte, donc c'est vraiment bien foutu. On est vraiment quelque chose de très cinématographique. Et ça marche vraiment bien. Il y a une représentation des effets, comment dire, quand à la fin elle sent les palpitations du sang, et c'est très très bien fait, c'est très dynamique, c'est très beau, c'est hyper efficace. J'ai vraiment aimé cet album, j'ai vraiment, je sais pas comment vous en donner envie, à part que c'est une histoire de vampire comme vous en avez pas vu. C'est pas Twilight, passez à autre chose, c'est pas Murnau, c'est vraiment une super histoire de vampire qu'il faut lire pour vraiment comprendre. Et ça, c'est un livre qui va passer très très vite dans vos mains. Donc n'hésitez pas, ça ne peut que vous faire plaisir. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signe la fin de cette émission. Nous venons de passer une heure ensemble à parler de BD franco-belge, de manga et de comics. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, tout simplement La Case de Seb. J'ai commencé à faire un petit truc qui s'appelle un Book of the Day, un livre du jour pour les non-anglophones, où je publie tous les jours un livre qui a été chroniqué ou pas dans l'émission. Et ça vous fait des conseils de lecture quotidiens. Alors j'ai dit tous les jours, sauf le lundi et le dimanche. Le lundi parce que effectivement, soit je prépare l'émission du lundi suivant, soit je suis à la radio à vous faire cette émission. Et le dimanche parce que faut bien que je me repose un petit peu. Donc on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous serez présent avec moi dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?